il y a bien sûr d'abord la conception du rôle des femmes et des hommes. Donc les femmes doivent être au foyer, les hommes sont en politique, dans l'espace public, sur le marché du travail. Et puis à partir de cette conception, il y a toute une série d'attributions qu'on donne aux femmes. Elles sont émotionnelles, elles sont pas rationnelles, elles sont en fait incapables de faire de la politique. Il y a cet élément-là, mais c'est un élément qui n'est pas particulier à la Suisse, parce que d'autres pays aussi, pendant longtemps, avaient cette vision traditionnelle des femmes. En Suisse, il y a la démocratie directe, donc il faut une majorité de citoyens qui acceptent de renoncer à un privilège. Et c'est souvent un argument qu'on avance pour expliquer le retard de la démocratie suisse. Mais moi, je dirais que cet argument-là est aussi une partie du problème, parce que il n'était pas absolument indispensable. En tout cas, les juristes commençaient à le dire à partir des années 1950, qu'il y ait un vote populaire. Donc, le Parlement ou le Conseil fédéral pouvait très bien introduire une loi, une proposition qui aurait permis de donner le suffrage aux femmes.
Mais il y a aussi un autre argument à l'époque, c'est que cette question du suffrage féminin, elle n'a pas vraiment fait l'objet de beaucoup de mobilisation dans le camp politique, si ce n'est peut-être à gauche.
Oui, les femmes ont manqué d'alliés vraiment fiables. C'est vrai que le Parti socialiste s'est prononcé très tôt, déjà au début du XXe siècle, pour le suffrage, donc point de vue programmatique. Il s'est engagé au début des années 20 et après il y a eu un recul de l'engagement. Quant aux autres partis, donc le Parti conservateur, bon, il était opposé. Le PAI, donc le Parti des paysans, artisans, indépendants, était fermement opposé. Et le parti qui pose problème en quelque sorte, c'est le parti radical, parce que les suffragistes, personnellement, étaient souvent très proches de membres du parti radical, d'édiles du parti radical. Et le parti radical, encore en 1959, ne peut pas se décider à donner le mot d'ordre du oui. Il donne le mot d'ordre de la liberté de vote, donc il n'arrive pas à trouver un consensus en son sein. Et je pense que c'est une question de concordance, parce que le Parti radical, au niveau fédéral, était lié aux deux autres partis de droite, aux conservateurs et puis au PAI, qui eux étaient justement très opposés.
Le droit de vote des femmes va être accepté en 1971, alors qu'il avait été refusé en 1959 dans des proportions similaires, voire identiques. Comment on explique ce basculement, ce renversement total de tendance entre ces deux consultations ?
Entre deux, il y a les années 60. Et les années 60, c'est une période de profonde modification sociétale. Il y a le mouvement 68, qui commence bien sûr avant 68. Il y a des changements de mentalité. Donc il y a des évolutions au sein de la société suisse même. Mais il y a aussi une question internationale. La Suisse, dans une position internationale, devient une sorte d'anachronisme, de particularité, voire de bizarrerie. Donc la Suisse commence à être un peu gênée par rapport à cette situation, notamment lorsqu'elle adhère au Conseil de l'Europe, qu'elle devrait signer la Convention européenne des droits de l'homme. Il se pose la question, mais comment signer en n'ayant pas le suffrage et la proposition? Et là, les socialistes font défaut au soutien des femmes. Les socialistes estiment qu'on peut signer la Convention européenne des droits de l'homme avec cette réserve. Tant pis, la Suisse n'a pas le suffrage féminin. Mais nous sommes quand même partisans des droits humains. C'est quelque chose qui choque les suffragistes, mais qui commence aussi à choquer énormément de monde.
Entre ces deux dates, il y a aussi un renversement de tendance au sein du parti catholique conservateur, l'ancêtre du PDC, en tout cas chez les femmes qui se mettent à soutenir le droit de vote féminin.
Absolument. Les femmes catholiques étaient très fortement encadrées par le parti conservateur depuis 1912. Et après la guerre, dès les années 50, elles prennent certaine autonomie, commencent à s'engager pour le suffrage, commencent à collaborer avec les autres organisations féminines, voire féministes, se prononcent pour le suffrage. Donc, c'est une modification d'importance.
On voit aussi dans votre ouvrage que cette question du suffrage féminin, elle est abordée avec beaucoup, beaucoup de prudence, y compris par les militantes. On sent qu'il y a vraiment une prudence. On ne veut pas porter tout de suite cette question sur le devant de la scène.
Ce n'est pas que les femmes ne veulent pas porter cette question sur le devant de la scène, mais elles le font avec des moyens très prudents, comme vous dites, un respect des normes culturelles et politique de la Suisse. Elles sont assez conformistes finalement dans les moyens d'action choisis. Elles ont un peu peur de choquer, non sans raison d'ailleurs, parce que chaque fois qu'elles élèvent la voix, on les tense, on les traite d'hystériques et d'un tas de noms. Donc elles sont assez prudentes.
Cette prudence, elle s'est aussi peut-être matérialisée par le fait que les femmes ont tout d'abord en Suisse porter le combat sur d'autres thèmes, notamment l'égalité pour tout ce qui est justice civile ou pénale.
Oui, elles ont fait ça, quoique le combat pour l'égalité sur le plan du code civique était perdu. En fait, cette bataille était déjà faite en 1907, quand le nouveau code civil a été abrogé. Et puis, au niveau du code pénal, ça s'est joué avant 1942. Donc, dans les années 50, la question du suffrage pouvait vraiment revenir sur le devant de la scène.